Alors, on va continuer cette semaine le livre des Actes. Nous en sommes au chapitre 8. Donc, on va lire les quatre premiers versets pour faire la transition avant de lire la suite. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc on se souvient du chapitre précédent, avec la lapidation d'Étienne. Donc, suite à cette lapidation, qu'est-ce qui se passe? Une grande persécution contre tous les disciples du Seigneur. Ça veut dire que ces Juifs qui ont vu Étienne, qui disait voir le Seigneur, qui avait cette vision, étaient fous de colère, de rage, et ils ont commencé à poursuivre les disciples du Seigneur qui étaient à Jérusalem. Le Seigneur avait dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes disciples à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et qu'est-ce qui s'est passé là avec cette persécution? En fait, c'est le plan de Dieu qui s'est accompli. Dieu a permis, puisque les disciples, semble-t-il, étaient concentrés à Jérusalem. Et suite à cette persécution, hop, ils sont partis en Judée, en Samarie. Et puis après, ils ont commencé à parcourir village et village, aller de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle de la parole. Donc je ne m'attarde pas sur cette introduction. Maintenant nous allons lire versets 4 à 24 pour le texte qui nous intéresse ce matin. 4 à 24. Ceux qui avaient été dispersés allaient... Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques et poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. » car ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Je m'arrête ici. Donc, on voit ici dans ce passage deux puissances qui sont opposées et qui vont venir se rencontrer. Celle qui émanait de Philippe, l'évangéliste, et puis celle qui émanait de Simon, le magicien. Et on peut dire ces deux hommes captivaient vraiment les foules. et l'effet sur les foules que chacun produisait était en apparence similaire. On voit qu'il captait l'attention. D'abord, verset 6, il est dit « Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe ». Et on lit à peu près la même chose pour Simon le magicien, verset 10. Il est dit « Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement ». Donc, en apparence, Simon et Philippe se ressemblaient un peu. Mais on peut dire que l'un est venu supplanter l'autre. Au départ, Simon exerçait ses actes de magie dans la Samarie. Quand Simon arrivait, les foules venaient le voir. C'était impressionnant. Ils étaient intéressés par ce qu'il faisait parce qu'ils voyaient des choses, semble-t-il, qui étaient surnaturelles. Alors, comment faisait Simon? Qu'est-ce qu'il faisait? Des tours de passe-passe? Peut-être qu'il arrivait à dire des choses sur ce que les personnes pensaient, à deviner un petit peu comme une cartomancienne. Peut-être qu'il faisait apparaître des choses, bouger des choses, bouger des objets. Mais lorsque Philippe est arrivé, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les foules se sont complètement désintéressées de Simon et ont commencé à suivre Philippe. Parce que Philippe faisait quelque chose de plus que Simon, c'est qu'il faisait du bien aux foules. Quand il y avait quelqu'un qui était possédé, le démon partait et la personne retrouvait tout son sens et toute sa raison. Quand quelqu'un était infirme, Philippe le guérissait et la personne marchait. C'était plein de bien, de bonnes choses qui se passaient dans les familles. Du coup, les foules suivaient Philippe. Ils étaient attachés à Philippe. Ils avaient envie de le suivre. Même, regardez verset 8, il est dit « Il y eut une grande joie dans cette ville ». Ils étaient heureux. C'était le bonheur. Simon, lui, probablement, il arrivait à faire oublier un peu les malheurs des uns et des autres pendant une heure ou deux avec ses actes de magie. Mais ce n'était pas la délivrance, ce n'était pas le bonheur pour le reste de la vie. Il y avait une grande différence entre ces deux hommes. Avant, les foules croyaient voir en Simon la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Et une fois que Philippe est arrivé, alors là, ils ont compris. Ça, c'est la puissance de Dieu et celle qu'on appelle vraiment la grande. Et on peut dire la puissance de Simon, c'était une tromperie, c'était un subterfuge. Et malheureusement, le diable arrive à tromper les gens, et il trompe encore aujourd'hui. Il trompe les gens avec des horoscopes, avec tirage des cartes, avec des choses comme ça, parfois avec la prière d'un rebouteux. Je me souviens avoir été emmené, quand j'avais 16 ans, par une tante voir un rebouteux, avec toute une maison un peu lugubre là. Ou bien on trompe les gens aussi avec un pèlerinage dans un lieu où il y a des miracles, à Lourdes ou ailleurs. Et là, on se dit, on pense voir une puissance, celle qu'on appelle la grande. Quand Philippe s'est mis à guérir par la vraie puissance de Dieu, alors l'attrait et l'étonnement qu'opérait Simon s'est retombé comme un gâteau qui redescend. C'est un peu comme Moïse. Vous vous souvenez, Moïse devant Pharaon, il jette son bâton, ça devient un serpent. Les sorciers font la même chose. Ils jettent leur bâton. Incroyable! Ça devient des serpents. Incroyable! Et à ce moment-là, le serpent de Dieu, de Moïse, avale les autres serpents. Et là, on voit où est la puissance, où est la vraie puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande main. C'est Dieu qui vient absorber, qui vient détruire, qui vient anéantir ce qui vient du diable. Et c'est ce qui s'est passé avec Philippe. Dès qu'il est arrivé à Samarie, tous ont vu où était la puissance de Dieu. Alors, ils se sont détournés de Simon. Ils ont commencé à suivre Philippe, l'évangéliste. Mais on voit que Philippe ne faisait pas que des miracles. Il avait un message, et c'est ce qui fait la grande différence entre ces deux hommes. Verset 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Et si Dieu permettait que Philippe accomplisse des miracles extraordinaires, c'était pour un but bien précis, c'était afin d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Donc on peut dire que Dieu a appuyé le témoignage de Philippe par des signes, par des prodiges, par des miracles, ainsi qu'il le dit en Hébreux 2, verset 4. Et pourquoi? Pour que les foules soient attentives, qu'elles ouvrent leurs oreilles et qu'elles écoutent le message. c'est comme ce qu'il a fait à la Pentecôte. Pourquoi Dieu a permis ce parler en langue? Ils se sont mis à parler des langues étrangères qu'ils n'avaient pas apprises. Ben, c'était pour qu'ils soient attentifs. Et après, Pierre a pu prêcher le message de l'Évangile et la prédication a pu atteindre son but. Philippe a agi de la même manière. Dieu lui donnait de guérir et puis il prêchait ensuite. Il leur parlait de Jésus qui, quelques années auparavant, était mort à Golgotha. Il leur expliquait Christ qui était le Sauveur, qui avait versé son sang, qui avait payé pour eux, qu'il fallait se repentir et qu'il fallait croire en Jésus-Christ. Et ils ont cru. Il est dit, si bien qu'hommes et femmes sont tous descendus dans les eaux du baptême. Verset 13, il est dit, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qu'il opérait. Et là, on se dit, merveilleux! Simon le magicien a cru à l'évangile. Il a cru. Il s'est même fait baptiser par immersion. Il est sauvé. Gloire à Dieu. Eh bien non. Eh bien non. Simon le magicien n'était pas sauvé. C'est pas aussi sûr que cela. Le salut, c'est par la foi. Ça, c'est certain. Jésus l'a dit et l'a redit. Il a mis en exergue, il a élevé la foi des uns et des autres en disant « ta foi t'a sauvé ». Il a dit plein de fois dans les évangiles. Mais ici, c'est pas une foi salvatrice, une foi qui sauvait. C'était pas la confiance qui sauve un homme. C'était une foi, il avait foi, mais c'était pas la foi qui sauve. L'homme a la capacité de croire. Tout le monde croit. Nous croyons tous en quelque chose et toute la ville de Perpignan croit en certaines choses. Nous avons la capacité de croire. Croire, c'est faire confiance. C'est pour ça que Jésus s'est réjoui de voir la foi individuelle des uns et des autres. Mais pourtant, donc Simon croit et il ne serait pas sauvé. Pourquoi il n'est pas sauvé? D'abord parce que Dieu nous montre dans ce passage qu'il y a une fausse foi. Il y a une foi qui n'amène pas au salut. Il y a une foi qui ne sauve pas. Une foi qui est mal placée. Simon a cru, mais il n'a pas vraiment expérimenté le salut en Jésus-Christ. Et la suite de l'histoire le démontre. Il y a plusieurs manières de croire. Sur la terre, il y a des milliards de personnes qui croient. Si on regarde rien que le christianisme dans sa globalité, on peut dire qu'il y a 2 milliards de chrétiens, à peu près, hein. 2 milliards de personnes qui croient en Jésus. Est-ce qu'il y a 2 milliards de personnes qui sont sauvées? Non. Pourtant, si vous leur demandez, beaucoup vont dire, mais bien sûr que je crois en Jésus. Certains, on peut leur demander, est-ce que vous croyez en Jésus? Ah oui, oui, bien sûr. Et puis on continue à tromper sa femme. On continue à aller avec de multiples partenaires. Hein. Certains ne voient aucun intérêt à se marier, croient en Jésus. D'autres restent toujours les mêmes. Ils sont agressifs, ils sont boudeurs, ils sont violents, ils sont égoïstes. Mais ils croient en Jésus. Hein, croyant, oui, oui, je crois en Jésus. Ils volent. Vous croyez en Jésus? Oui, oui, bien sûr. On croit en Jésus. D'autres croient en Jésus, mais curieusement, ils s'adressent tout le temps à quelqu'un d'autre dans leur prière. C'est Saint ceci, Saint cela, ou Marie. Mais c'est finalement pas à la personne de Jésus-Christ. Et croire en Jésus, de cette manière, ça ne suffit pas. Cette foi-là, elle ne sauve personne. Regardez Jean 2, 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et ici, on voit des hommes, ils ont cru, ils crurent en son nom. Mais est-ce que ça signifie pour autant que, eh bien, ils étaient sauvés? Non. Jésus ne se fiait pas à eux. Il n'avait pas confiance en eux parce qu'il n'avait pas eu cette foi qui sauve. Jésus n'accordait aucune confiance à ces Juifs qui prétendaient croire en lui. Pourquoi? Il dit parce qu'il les connaissait tous. Alors, ils avaient peut-être une foi qui était intellectuelle, où c'était une foi qui était sentimentale, venait des sentiments, une foi qui se basait sur les miracles qu'ils avaient vus. Puisqu'à l'évidence, il se passait des choses avec Jésus. Alors, eh bien, voilà, ils ont vu le miracle. Alors, du coup, je crois. Mais dans leur cœur, ils ne plaçaient pas leur confiance dans la personne de Jésus-Christ. C'était une foi qui était plutôt du cerveau, mais pas une foi qui était du cœur. C'est pour cela que aujourd'hui, encore, et depuis des siècles, on fournit des supports matériels de la foi. Incroyable. Un support matériel de la foi. Un crucifix, une relique, un crâne, un bout d'os, un bout de croix. Voilà, un support matériel ou bien un linge. Support matériel de la foi. Comme si la foi, elle avait besoin de s'accrocher à un support matériel. Alors que la foi, c'est justement de croire sans voir. C'est de faire confiance dans la parole de Dieu sans voir les choses. Ailleurs, il faut du spectacle. Il faut des miracles. Il faut des cris. Il faut des pleurs. Il faut voir quelque chose. Et finalement, on s'accroche à ces choses que l'on voit. Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux. Ils sont heureux. Et heureux êtes-vous ce matin si vous croyez sans le voir encore. Et c'est peut-être l'occasion ce matin d'éprouver votre foi. Est-ce que votre foi en Jésus-Christ est une foi du cœur ou bien c'est une foi intellectuelle? C'est une foi du cerveau. Est-ce que c'est une foi que Dieu accepte et qu'il honore? Ou est-ce que c'est une foi que Dieu n'accepte pas, la rejette? Est-ce que vous avez la vraie foi, la foi qui sauve? Il faut se poser honnêtement la question. Regardez Luc 8, verset 13. Il dit, « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. » Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ici, Jésus nous parle encore d'une fausse foi. Une foi qui est enthousiaste les premiers temps, mais elle n'a pas de racines en elle-même. C'est une foi qui est superficielle. Elle se base sur quelque chose qu'elle a peut-être vu ou une impression, elle a ressenti quelque chose. On croit en Jésus, oui, mais on croit en Jésus pourquoi ? On croit en Jésus parce que, bien, il nous a bénis. On croit en Jésus parce qu'on a fait une prière et puis, ben, semble-t-il, Dieu a fait quelque chose, il a exaucé. Alors on croit, mais la foi qui sauve, c'est plus que cela. La foi qui sauve, c'est un choix. C'est un choix. Elle est volontaire. On choisit vraiment Jésus pour maître, pour sauveur, pour seigneur de sa vie. On fait un choix. On fait le choix de lui faire confiance. Jésus a dit, une foi qui est superficielle, elle ne tient pas au jour de l'épreuve. Dès que survient une tentation, une difficulté, un problème, c'est la chute. Et là, on perd la foi. On n'a plus foi. Et Simon a cru, mais il a cru d'une foi qui était superficielle. Sa foi n'était pas réelle. Et pour le comprendre, il suffit d'analyser sa foi. Quel était l'objet de la foi de Simon? Qu'est-ce qui l'a motivé à croire en Jésus? Eh bien, c'est les miracles. C'est ça qu'il a... Voilà, il a eu foi parce qu'il a vu des miracles. Dès que Simon a vu Philippe faire tous ces miracles, hop, il le suivait partout comme un petit chien, en se disant, oh là, incroyable. Et il s'est dit, oh, c'est bien intéressant ça. Hein? Peut-être que moi aussi je pourrais faire un miracle. Hein? Et l'objet de notre foi, c'est peut-être pas le bon. Certains ont foi en Dieu. Pourquoi? Parce que, il leur donne des amis. On vient à l'église, c'est une association sympathique, on rencontre des gens, il y a c'est fraternel, ils sont gentils avec moi, il y a une atmosphère qui est chaleureuse. Parfois, il y a des repas fraternels même, on mange bien. Oui, moi je crois en Jésus, hein.
Je crois, oui.
D'autres ont foi en Dieu parce qu'ils ont peut-être le sentiment, bah, peut-être ça va m'apporter un peu plus de chance dans la vie. Hein. Je vois, eux, ils ont l'air d'aller bien. Il y a une bénédiction quelque part, là. Donc, moi, j'ai foi. D'autres ont foi parce que leurs parents ont foi ou ont eu foi. Alors, ben, j'ai foi. On a tous foi dans la famille. On croit tous en Jésus. D'autres ont foi parce qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. On peut dire un miracle. Par exemple, ils ont été protégés dans un accident. Ou, comme je disais, Dieu a répondu à une de leurs prières. Alors, ils ont foi. Je connais une mère, Dieu a répondu à sa prière. Alors qu'elle ne connaissait pas Jésus, mais Dieu a répondu à sa prière. Dieu l'a exaucée. Alors, eh bien, on a foi. C'est comme une poussée de foi. Vous voyez ? Hop, une poussée de foi. Oh, j'ai foi. Mais ce n'est pas une foi qui a des racines, qui est vraiment bien fondée. Et puis, avec le temps, avec les mois, eh bien, cette foi, elle disparaît. Pour Simon, il avait foi, lui, parce qu'il a vu des phénomènes surnaturels. Et finalement, c'est ce qu'il recherchait depuis toujours, hein, toucher le paranormal, faire quelque chose d'extraordinaire. Et on voit que l'objet et la qualité de sa foi ne sont pas bons. Regardez versets 17 à 19. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Et là, vous comprenez, il n'avait pas le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il a cru, mais pour que ces personnes reçoivent le Saint-Esprit, il a fallu que Pierre impose les mains. Et là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et là, on voit que Simon n'est pas inclus dans cette réception du Saint-Esprit. Il est en dehors, il est à l'extérieur. Et il voit, il reçoit le Saint-Esprit. Ah, moi aussi, je veux avoir ce pouvoir. Il ne dit pas, ah, moi aussi, impose-moi les mains. Je veux aussi avoir le Saint-Esprit. Non, je veux avoir le pouvoir de donner le Saint-Esprit, je veux avoir ce pouvoir-là. Il est probable que quand Pierre a imposé les mains, alors il y a eu une manifestation de l'Esprit. Peut-être qu'ils se sont mis à parler en langue, puisqu'on est vraiment dans cette période du livre des Actes. Et donc, ça y est, c'était évident, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et on peut se poser la question, mais pourquoi n'ont-ils pas reçu le Saint-Esprit alors qu'ils ont cru ? La réponse, c'est que l'apôtre Pierre, si vous vous souvenez dans les évangiles, Jésus lui a dit « Je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plein d'histoires avec Pierre à la porte avec les clés et il ouvre le ciel. Hein ? Plein d'histoires qu'on entend comme ça. C'est pas que Pierre est à la porte et qu'il ouvre la porte du ciel. Pas du tout. C'est que, en fait, Dieu a voulu que l'évangile passe par l'apôtre Pierre et se répande sur tous les hommes. Et donc, il lui a donné en cela les clés. C'est Pierre qui a ouvert l'évangile pour tous les hommes. D'abord, à la Pentecôte, c'est lui là qui a ouvert la porte pour les Juifs. Il leur a prêché l'évangile. Et ça y est, ils pouvaient recevoir eux aussi le Saint-Esprit. Ensuite, ici, on est avec des Samaritains. Donc, c'est un mélange de Juifs et de païens. Ils ont cru, ils se sont fait baptiser, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore. Pourquoi ? Parce que Pierre n'est pas passé par là. Pierre arrive, il impose les mains, ça y est. L'évangile maintenant, le salut, passe aux Samaritains. Et si vous avancez un petit peu plus loin dans le livre des Actes, chapitre 10, de nouveau, c'est Pierre avec Corneille. Et là, c'est les païens. C'est Pierre qui va prêcher l'évangile aux païens. Et ça y est, la porte est ouverte. Donc c'est Pierre qui a ouvert la porte aux Juifs, aux Samaritains et aux païens. Voilà pourquoi il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Et donc Simon, lui, était spectateur de ça. Il n'était pas inclus dedans. Il n'était qu'un spectateur. Il regardait ce qui se passait. Et ça lui a donné envie d'être comme Pierre. Quand il a compris que les apôtres pouvaient bien accorder le Saint-Esprit, c'est comme cela qu'il a interprété, tout de suite il a sorti « Combien ? Combien ? Combien je vous donne là ?» Il a cru qu'il pouvait acheter ça. Simon était préoccupé que pour faire des miracles. En fait, il voulait que épater les foules, chercher sa propre gloire. Alors oui, il avait foi, mais c'était une foi dans son intérêt, en fait. Et on voit que sa foi était légère, elle était vaine. Regardez verset 20, acte 8, verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et là, il dit, ni part, ni lot dans cette affaire. Donc, on peut déduire, tu n'auras aucune part au Saint-Esprit. Tu n'auras pas le Saint-Esprit, impossible. Et le salut, ça commence réellement quand on croit, hein, et quand on reçoit, pardon, le Saint-Esprit. C'est quand on est scellé de l'Esprit, ça y est, on peut dire, la personne est sauvée. Mais lui, eh bien, n'est pas passé par cela. Pourquoi ? Parce que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Pierre lui dit alors, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » Et là, on voit que Pierre est en train de lui parler de la repentance qui est salutaire. Et ça, c'est le signe de la conversion, vraiment. Quand il y a une repentance et une attitude de repentance. La foi sans repentance, ça, c'est une foi qui est légère. Hein, il faut se demander ce qui se passe. La vraie foi, elle s'accompagne de la repentance. Simon était un magicien, il est dit dans le texte, qui se donnait pour être un personnage important. Donc, il était plein d'orgueil. Il aimait attirer les foules par la magie. Et immédiatement après avoir cru et s'être fait baptiser, qu'est-ce qu'il veut faire ? Continuer. Il veut continuer à attirer les foules, continuer à attirer les regards sur sa personne, avoir le pouvoir d'accorder le Saint-Esprit. Et on peut se demander, mais est-ce qu'il a vraiment bien compris l'évangile de Jésus-Christ ? Parce qu'il n'y a aucun changement dans l'attitude de Simon. Au lieu de se focaliser sur les miracles, Simon aurait dû se focaliser sur les paroles que Philippe prononçait. Et quelles étaient ces paroles ? Philippe a prêché la bonne nouvelle du royaume et royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a prêché l'espérance d'aller au ciel pour ceux qui croient et qui se repentent. Croire et se repentir vraiment de ses péchés. Et on peut dire la foi et la repentance, ça va de pair, c'est ensemble. Mais il semble que Simon n'ait rien retenu à l'évangile de Jésus-Christ, simplement parce qu'il était assoiffé du miraculeux. Et nous, ce matin, si nous croyons, est-ce que nous croyons seulement ou nous croyons et nous nous repentons ? Est-ce que votre foi, elle est accompagnée de la repentance ? Vous êtes vraiment repentant pour vos péchés ? Jacques dit bien dans son épître, chapitre 2, verset 19, il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» On pourrait dire « Tu crois en Dieu ?» Très bien. Il dit « Mais les démons aussi croient. Hein » Les démons, eux, ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils sont rejetés. Et on voit bien que la foi, ça ne suffit pas. Et il faut la foi qui sauve, la foi avec la repentance. Il faut être du bon côté, du côté de Dieu. Quand l'apôtre Pierre a prêché devant la foule des Juifs qui étaient à Jérusalem, à la Pentecôte, il est dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent, hommes, frères, que ferons-nous ? Et à ce moment-là, Pierre répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre ne leur dit pas, bon, ceux qui sont pécheurs, à gauche. Ceux qui n'ont pas péché, à droite. Non, il dit, repentez-vous tous. Vous êtes tous pécheurs. Repentez-vous. C'est impératif. Pas de salut sans repentance. Pas de salut si on ne dit pas « Je ne veux plus pécher, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. » Un jour, Jésus dit, donc il y a la tour de Siloé qui est tombée sur 18 personnes. Tous sont mortes. Et Jésus, en citant cela, a demandé aux disciples, il leur a dit, « Croyez-vous que ces personnes aient été plus coupables que les autres habitants de Jérusalem ? Est-ce que c'était des plus grands pécheurs que tous les autres ?» Et Jésus répond lui-même à la question. Il dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il met vraiment l'accent sur la repentance. Si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu, la Bible, qui le dit. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous coupables. Si on ne se repent pas, nous allons périr. Donc, croire en Jésus, oui, il faut croire. Mais il faut croire avec la repentance. C'est impératif. Donc Simon n'a pas eu la foi qui sauve, sa foi était encore vaine, stérile. Et quand on voit la réponse qu'il donne à l'apôtre Pierre, on voit qu'il n'a vraiment pas compris. Regardez verset 24. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive pas ce que vous avez dit. » Pourquoi il demande « Priez pour moi » ? Ce qu'il fallait, c'est pas demander qu'on prie pour lui, c'est qu'il aille dans un coin, qu'il se mette à genoux, qu'il pleure, qu'il dise « Pardon Seigneur, pardon !» Parce que je veux faire des miracles. Pardon parce que j'ai cru que je pouvais acheter ces choses. Pardon parce que j'ai touché à des choses occultes. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Sauve-moi. Mais Simon ne le fait pas. Et c'est très bien de demander qu'on prie pour soi, mais les chrétiens ne peuvent pas faire ce que chacun doit faire individuellement. C'est impossible. Il y a un moment... Il faut que ce soit personnel. C'est la repentance personnelle. Et la vraie foi, c'est pas une affaire de ressenti, c'est pas une affaire de sentiment, c'est pas une affaire d'expérience, mais c'est une affaire de volonté. La vraie foi, elle est volontaire. On veut appartenir à Jésus-Christ. On veut donner son cœur à Jésus-Christ. On veut croire en Jésus-Christ. Et comment on le manifeste ? Ben par une prière de foi et de repentance. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande d'entrer dans mon cœur, de laver mon cœur. Je ne veux plus faire toutes les choses mauvaises que je sais que je fais. La vraie foi, elle veut demander sincèrement pardon pour ses péchés et elle le fait. Elle le fait. Est-ce que ce matin vous voulez croire de la foi qui sauve ? Ou de la foi qui est comme celle de Simon. Est-ce que vous voulez Jésus comme sauveur de votre vie, de vos péchés, ou vous voulez Jésus comme porte-bonheur ? C'est pas pareil. Regardez un dernier verset, 2 Corinthiens 13, verset 5. Il est dit ici, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Éprouvez-vous vous-même. Est-ce que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous soyez réprouvés ? Le mot réprouvé, c'est adokimos. Adokimos. Et il faut faire un examen de soi-même, se regarder honnêtement et se demander, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu, une enfant de Dieu ? Est-ce que vraiment Jésus est en moi ? Ou bien je suis plutôt réprouvé parce que bien je continue dans ma vie de péché ? C'est-à-dire, réprouvé, je ne résiste pas à l'épreuve. Je ne suis pas approuvé. Je ne résiste pas à l'essai. Autrefois, il n'y avait pas des billets de banque, il n'y avait que des pièces. Donc on prenait du métal, on le chauffait, on le fondait, on mettait dans des moules, et une fois qu'on les sortait, on essayait d'égaliser un petit peu la pièce pour qu'elle soit bien ronde. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas encore tous les alliages qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on mélange les métaux, Mais on ne mélangeait pas encore, donc le problème c'était que les métaux étaient plutôt tendres, malléables. Et alors il y avait des personnes peu scrupuleuses qui prenaient les pièces et hop, elles limaient et elles récupéraient du métal. Et petit à petit, les pièces, elles étaient rognées. J'ai lu que, donc, en un siècle, il y a eu plus de 80 lois qui ont été promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des pièces qui étaient en circulation. On essayait d'empêcher ça. Mais il existait des changeurs de monnaie qui, eux, étaient honnêtes. Ils voulaient que les pièces aient chacune le bon poids, qu'il n'y ait pas deux poids et deux mesures. On les appelait des dokimos, des approuvés. Est-ce que, au sujet de votre foi, vous êtes dokimos, approuvé, ou vous êtes adokimos, réprouvé, parce que vous n'avez pas cette foi, la vraie foi, qui est accompagnée de repentance et qui sauve. La vraie foi, elle est volontaire. Elle veut croire. Elle veut se repentir. Elle veut demander sincèrement pardon pour ses péchés. Et elle le fait. Elle le fait. On va s'incliner dans la prière.